Vous écoutez
RMC.
Il est 7h. Excellent réveil à tous. Bienvenue sur RMC. C'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La Hongrie fait le choix de l'Europe. Peter Maïgar remporte les élections législatives et met fin au règne du nationaliste Viktor Orban, proche de Moscou. Le flou ce matin au Moyen-Orient à l'aube d'un blocus américain du détroit d'Ormuz aux conséquences directes sur les cours du pétrole. En hausse avec un baril qui repasse au-dessus des 100 dollars et Bordeaux-Bègles qui peut se prendre à rêver d'un doublé européen après avoir écarté Toulouse en quart de finale de Coupe d'Europe de rugby.
Une page se tourne en Hongrie.
Après ces années de pouvoir, Viktor Orban a perdu les élections législatives. Le candidat pro-russe soutenu par les États-Unis a reconnu sa défaite face à Peter Maïgar, européen convaincu. Victoire largement saluée par les dirigeants des 27. Un soulagement pour l'Union européenne et un espoir pour des millions d'Hongrois qui ont choisi le conservateur. Reportage de notre envoyé spécial en Hongrie, Célestin Bougère, à Budapest.
Sur les quais du Danube, face aux écrans géants, les partisans de Peter Maïgar restent prudents jusqu'à la dernière minute. Viktor Orban vient de reconnaître sa défaite. Les Russes dehors scandent cet étudiant de 21 ans. Comme beaucoup, Gurgo reproche à Viktor Orban d'être à la botte de Vladimir Poutine. C'est ce qui l'a poussé à voter pour son adversaire.
Les Hongrois ne veulent pas être proches de la Russie. Nous voulons être en Europe. On veut se rapprocher de l'Union Européenne. C'est là qu'est notre place.
Dans la foule, beaucoup de jeunes adultes, certains brandissent un drapeau de l'Union Européenne, comme Matisse. Il rappelle que les dérives autoritaires de Viktor Orban ont privé les Hongrois de milliards d'euros d'aide de l'UE ces dernières années, dans un contexte économique déjà très difficile.
Cet argent aurait pu servir pour nos écoles, pour nos soins, pour tout. Pendant des années, c'était une meilleure option de partir de ce pays pour gagner sa vie. Donc ce qu'il se passe ce soir est énorme, surtout pour les jeunes. Beaucoup avaient perdu espoir. Mais aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers la Hongrie, ça me rend très fier.
Matisse ici, comme beaucoup, n'adhère pas à toutes les propositions de Peter Maïgar, mais pour eux, qu'importe, l'essentiel est d'être libéré de Viktor Orban et de croire enfin en un avenir européen.
Pensons ensemble vers une Europe plus souveraine pour la sécurité de notre continent, réagit Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec le nouveau Premier ministre hongrois, Peter Maïgar, afin de le féliciter, à l'inverse de Jordan Bardella, qui loue lui le bilan de Viktor Orban, qualifié de grand patriote par le président du Rassemblement National. Le blocus américain du détroit d'Ormuz à partir de 16h ce lundi. Pour faire simple, les navires en provenance ou à destination d'un port iranien ne pourront plus passer, bloqués par la marine américaine, annonce de Donald Trump au lendemain de l'échec des négociations de paix entre Washington et Téhéran. Et l'idée du président américain, c'est de freiner l'économie iranienne.
L'Iran ne sera plus en capacité de vendre son pétrole. Maintenant, peu m'importe qu'ils reviennent ou non à la table des négociations. S'ils ne veulent plus négocier, ça me va aussi. Leur marine est complètement détruite, vous savez. On a coulé 151 de leurs navires de guerre. Ils n'ont presque plus aucun bateau poseur de mines. Et juste pour que vous compreniez bien, l'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire. Eux, ils la veulent encore, mais il n'en est pas question.
Et la conséquence, comme toujours depuis le début de ce conflit, c'est la hausse des cours du pétrole, 8% de plus, au-dessus des 100 dollars le baril. La perspective de voir les prix baisser à la pompe, ça menuise. Une morosité qui gagne les chefs d'entreprise. Preuve en est avec ce chiffre que vous révèle RMC ce matin, 67% des entrepreneurs ressentent des émotions négatives au quotidien, le doute, la fatigue, la pression, et pour beaucoup, la crainte de voir leur entreprise disparaître. Lou Garnier.
Avec ses deux frères, Thomas Virio dirige une PME spécialisée dans les travaux d'impression. Il est passionné, mais souvent, l'aventure entrepreneuriale est difficile à porter.
Les facteurs de stress sont innombrables, les facteurs de difficulté s'accumulent. J'ai pas le choix, il faut que ça marche. On se donne à fond pour son entreprise.
Alors son quotidien, c'est être à 200% tout le temps.
J'ai pas de compteur d'heures, c'est très prenant. On est connecté quasiment jour et nuit.
Il emploie 24 salariés et admet se sentir un peu seul.
L'entrepreneur, c'est un responsable de famille. Il embarque ses collaborateurs dans chacune de ses décisions et il en est responsable.
Pour se préserver, il s'impose de vraies coupures pendant les vacances et fait partie d'un groupe d'entrepreneurs où ils échangent sur leurs difficultés respectives. Un très bon réflexe selon Hervé Kermarek. Il préside la GSC, une assurance chômage pour dirigeants.
Tu crées ton entreprise, mais ne reste pas seul. Va chercher des conseils à tes côtés. Ça te permet de lever la tête du guidon.
Collaborateurs, organisations patronales ou encore réseaux professionnels, les moyens de rompre l'isolement sont nombreux selon lui.
Et dans ces conditions, c'est à partir de ce matin que les TPE et PME vont pouvoir accéder au dispositif pré-flash carburant annoncé il y a 10 jours par le gouvernement permettant d'emprunter 5 à 50 000 euros sous condition. Un rendez-vous maintenant en fin de journée entre le ministre du Travail et les syndicats fermement opposés à la proposition de loi visant à permettre le travail de certains secteurs le 1er mai, jour férié et chômé. Il n'y aura pas de passage en force, assurait hier le gouvernement qui espère trouver une solution efficace et acceptable pour tous. On en vient à la mort d'un homme dans la Vienne, retrouvé blessé par balle au thorax par les autorités venues l'interpeller à son domicile de Montmorillon. Soupçonné, Maxime Clieruza, d'être à l'origine d'un double féminicide quelques heures plus tôt.
Oui, les gendarmes découvrent l'un des deux corps dans l'allée à côté d'un véhicule, le deuxième devant la porte d'entrée du logement. Selon une source proche de l'enquête à RMC, les premiers éléments laissent à penser que les victimes seraient l'ex-compagne du suspect et la sœur de cette dernière. La procureure de la République de Poitiers explique de son côté que l'homme à l'origine de ce double meurtre est manifestement voisin de ces deux victimes. Après les faits, le suspect d'une soixantaine d'années se retranche avec son arme avant de se tirer une balle dans le torse. Et l'y portait avec son pronostic vital engagé à l'hôpital de Poitiers, il décède de ses blessures.
L'heure du verdict aujourd'hui à Aix-en-Provence. 6 hommes sont jugés depuis 3 semaines pour un double homicide, parmi eux 2 chefs présumés de la DZ Mafia contre qui la perpétuité et 18 années de prison ont été requises. Lyon renoue avec le succès en Ligue 1. Première victoire en 10 matchs, toutes compétitions confondues pour les Lyonnais, vainqueurs de Lorient 2-0 en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Notez également le carton de Lille qui reste 3e après sa victoire 4-0 hier après-midi face
et
à Toulouse.
Et puis un scénario qui se répète en rugby.
Avec la qualification de Bordeaux Bègles dans le dernier carré de la Champions Cup, c'est la Coupe d'Europe face au grand rival toulousain, écarté comme l'an dernier en quart de finale par les Girondins, tenant du titre vainqueur 30-15 au terme d'un match épique. Wilfried Templier.
Oui, c'était le rendez-vous des deux géants du rugby français. Le capitaine bordelais Maxime Lucu a même avoué la pression qui était la leur autour de ce match.
Il y avait beaucoup de tension parce que le Stade toulousain fait toujours peur quand tu te dis que ça arrive en fin de semaine. C'est pas facile à vivre, mais en tout cas, c'est des beaux moments et on a pris beaucoup, beaucoup de plaisir.
Dans un stade Chaban Delmas, effectivement en folie, mené 15-5, Bordeaux a renversé Toulouse pour l'emporter 30-15. Il faut dire que depuis des mois, l'UBB vient contester l'hégémonie toulousaine et écrire sa propre histoire. Bordeaux s'affirme pour le talonneur Maxime Lamotte.
On continue à grandir, on en est conscient. Maintenant, ça date pas dire. On savait que le Stade toulousain arrivait armé avec toutes leurs forces vives. C'est top le résultat.
Seulement, il prévient, les grandes équipes sont celles qui gagnent des titres et pour l'instant cette saison.
On est très content d'avoir franchi cette étape, mais on n'a rien qu'à gagner. On sait que la route est encore très très longue. Donc voilà, il faut rester concentré sur nous, rester sur notre chemin, continuer à travailler dur pour arriver le plus en confiance et le plus près possible pour cette demi-finale.
Ce sera face aux Anglais de Basse pour espérer conserver le titre européen et continuer à faire chanter le public bordelais.
Et pourquoi pas une finale 100% française, puisque Toulon s'est aussi qualifié et se déplacera début mai sur la pelouse du Leinster.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08 sur RMC. Tiens, au 32-16e, Maxime qui nous appelle de grâce. Bonjour Maxime.
Et bonjour.
Comment ça va Maxime? Vous êtes employé municipal, vous vouliez réagir au 1er mai. Alors on comprend plus très très bien où on en est et si ça va être en action dès ce 1er mai. Il y a une réunion ce soir entre Bercy, Matignon et les syndicats. Est-ce qu'on pourra, oui ou non, travailler le 1er mai? Vous en pensez quoi, vous, Maxime?
Moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse travailler le 1er mai pour ceux qui en ont envie, parce qu'on est tous en train de pleurer sur le prix du carburant. Tout le monde tire la langue, plus personne n'a d'oseille. Et ceux qui veulent faire de l'oseille, on les empêche d'en gagner. Donc moi, je trouve pas ça normal. Après, c'est le 1er mai. Donc que le 1er mai, on décide de travailler ou non, le choix nous appartient. Parce qu'on peut pas forcer les gens à travailler le 1er mai, comme toutes les heures supplémentaires. C'est sur une base du volontariat. Mais à un moment donné, il faut qu'on se réveille et qu'on se donne les moyens de gagner notre oseille.
En fait, il faut laisser la possibilité de travailler plus pour gagner plus, quoi, en gros. Si je reprends le célèbre slogan.
Exactement. Alors dans ce cas-là, on empêche les influenceuses de poster sur les réseaux sociaux le 1er mai pour gagner de l'oseille. Si on veut empêcher un pauvre boulanger de faire son oseille et de faire son pain.
Je trouve votre comparaison très intéressante parce qu'en fait, on n'y pense jamais. Mais c'est vrai que désormais, il y a quand même un grand nombre de secteurs où il n'y a même plus de limite entre week-end, pas week-end, soir, jour, 1er mai effectivement ou autre jour. Maxime, vous bossez comme employé municipal?
Ouais, donc moi j'ai pas le choix de pas travailler. Moi de toute façon moi les municipalités sont fermées le 1er mai, donc j'ai pas le choix. Mais d'accord. Pour ceux qui ont le choix et ceux qui tirent la langue toute l'année, je trouve ça dégueulasse qu'on les laisse pas travailler.
Vous pensez qu'il faut les laisser travailler. Merci beaucoup Maxime d'être passé par le 32-16. Comme Maxime évidemment, vous n'hésitez pas, vous le savez, on vous donne la parole tous les jours sur RMC. Il est 7h09. Évitez un procès quand l'accusé reconnaît déjà les faits. La mesure est discutée à partir d'aujourd'hui au Sénat et elle met une partie de la justice en colère et dans la rue. Bonjour Louis de Gosse.
Bonjour madame.
Vous êtes le bâtonnier de Paris, avocat bien sûr, et c'est vous qui représentez les avocats dans la capitale. Vous êtes totalement opposé à cette réforme, non à une justice à deux vitesses. Voilà votre parti pris ce matin. Vous nous le dites dans un instant et vous nous parlerez de cette journée morte, jour de grève aujourd'hui chez les avocats. Il est 7h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 sur RMC et sur RMC Story. Des procès repoussés, des audiences sans avocat. C'est jour de grève aujourd'hui dans le monde judiciaire. Louis de Gosse, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le bâtonnier de Paris, vous représentez plus de 30 000 avocats qui exercent dans la capitale. Ce qui vous met en colère, c'est cette réforme proposée par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui veut instaurer, je cite, une procédure de plaidé coupable. L'idée, c'est que dans une justice qui est quand même totalement encombrée, au fond, pourquoi faire de longs procès quand le coupable présumé a déjà reconnu les faits? Tout le monde veut que ça accélère. Pourquoi est-ce que vous bloquez?
Tout le monde veut que ça accélère, vous avez raison. D'ailleurs, le constat est partagé aussi par nous, les avocats. On ne veut pas qu'on doive attendre 6 ans, 8 ans avant de passer en procès. C'est bon pour personne, même pour la défense, ça n'est pas bon parce que les témoignages s'oublient.
Mais alors ?
Ce que nous disons, c'est que la solution proposée par Monsieur le garde des Sceaux n'est pas actuellement la bonne. Alors, le Sénat qui va examiner la loi, a déjà examiné en commission des lois, a apporté des modifications déjà substantielles qui sont très bienvenues, que l'on appelait de nos vœux.
Lesquelles ?
Par exemple, d'éviter, alors c'est un peu technique, mais d'éviter que la consultation médicale soit faite par vidéo. Des accusés, d'éviter que l'on limite devant les cours criminelles départementales le nombre de témoins possibles, qui était limité à 2, on revient à 5 témoins. Donc il y a plus de place, si vous voulez, pour la défense. Notre problème, notre gros problème dans ce plaidé coupable, c'est qu'il n'y a plus d'audience. Il y a une audience d'homologation dans ce projet de loi.
C'est-à-dire, en gros, on valide le plaidé coupable.
Exactement. On valide, on met un coup de tampon. Mais ça ne suffit pas en réalité, parce que dans ces affaires criminelles, encore une fois, on est dans des affaires criminelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des affaires criminelles, même plus actuellement, les deux tiers des affaires criminelles, ce sont des crimes sexuels. Ce sont des viols. Et dans ces affaires-là, la parole à la fois de l'accusé, mais aussi et surtout la parole de la victime, est très important.
Oui, enfin pardon, mais les victimes elles-mêmes se disent plutôt favorables aussi parce que précisément le temps d'attente des procès leur paraît interminable.
Oui.
Je voudrais que vous écoutiez Jérôme Moreau qui est vice-président de la Fédération France Victimes.
Un certain nombre de victimes ressentent très douloureusement d'avoir des audiences qui durent plusieurs heures, pendant plusieurs jours, et puis la procédure pénale en tant que telle constitue une intensification du traumatisme et donc on peut très bien considérer que des victimes vont être favorables à cette reconnaissance de culpabilité et à cette procédure accélérée.
Qu'est-ce que vous répondez à...
Moi, je réponds que j'ai lu ce que dit la Fondation des Femmes, qui a publié une tribune, qui dit qu'au contraire, les victimes ont besoin d'être entendues. Donc moi, j'entends que effectivement certaines victimes, peut-être, ne veulent pas redire les sévices qu'elles ont subis, mais d'autres ont besoin, justement, pour traiter ce traumatisme-là, d'avoir l'effet cathartique de l'audience pénale. Et c'est ça que nous disons. Pas autre chose. En réalité, cette audience d'homologation ne devrait pas être un coup de tampon. On n'a pas besoin d'avoir des audiences qui durent des semaines, mais puisque les faits sont reconnus. Mais effectivement, qu'il
donc
y ait
réduire le temps,
chose...
mais ne pas le supprimer totalement.
Exactement,
quoi.
Exactement. Il faut qu'il y ait une audience pénale. Il faut qu'il y ait une décision, même si il y a eu un accord préalable.
Est-ce que ça veut dire, maître, que vous êtes OK pour la procédure du plaidé coupable, mais si elle n'efface pas totalement le procès? Je vous propose une sorte de chemin...
Actuellement, la profession est contre et veut la suppression. Bon, mais actuellement, la profession est en colère, il faut le dire, parce qu'on est en procédure accélérée.
Mais au fond, si on vous dit, écoutez, on garde le plaidé coupable, mais on y met des garde-fous...
Dans ce cas-là, c'est pas le bâtonnier qui parle, c'est Louis de Gosse. Effectivement, il peut y avoir une procédure plaidé coupable. D'ailleurs, il y en a une en matière correctionnelle et ça fonctionne. par les avocats. En matière criminelle, ce qu'il faut voir, c'est que dans les autres pays, par exemple, les crimes les plus forts, les plus graves, ont été exclus de ce plaider coupable lorsqu'il y en a, par exemple en Italie. En France, non, pas dans le projet Darmanin, mais effectivement, dans ce qu'a dit la commission des lois du Sénat, il y a maintenant
l'exclusion. Les viols sur mineurs, les viols aggravés, le proxénétisme sur mineurs sont exclus.
Ça s'est fait vendredi.
D'accord.
Ça s'est fait vendredi.
Donc, grâce à votre mobilisation.
Exactement. Donc, c'est work in progress, comme on dit. Hein.
Bon. Donc, voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose qui pourrait être acceptable.
Ça va, en tous les cas, dans le bon sens, avec les amendements de suppression que la commission des lois du Sénat a voté, effectivement, la semaine dernière.
L'Espagne a mis en place, et l'Espagne qui, justement, est pionnière aussi sur les questions, d'ailleurs, de violences sexuelles et de crimes sexuels, l'Espagne a mis en place... sous un gouvernement socialiste, donc on peut pas dire que ça ait grand chose à voir avec Gérald Darmanin, les résultats montrent une certaine efficacité. Donc, au fond, c'est quand même, vous vous dites, on va aller vers ça.
Écoutez, moi ce que je dis surtout, c'est qu'en ce qui concerne le plaidé coupable, mais il y a d'autres choses dans cette loi sur lesquelles on n'est pas du tout donc content. Il n'y a pas que le plaidé coupable. Dès lors qu'il y a une audience, et une audience qui serait une vraie audience, où on écoutera la personnalité de l'accusé, et on écoutera le traumatisme de la victime, oui, ça pourrait être intéressant. Ça reste une option intéressante, c'est une option.
On l'a bien compris. Une dernière question, Louis de Gosse, puisque vous êtes avec moi et que vous êtes le bâtonnier de Paris, représenté 30 000 avocats. Vous avez, j'imagine, suivi le procès de la DZ Mafia. Vendredi, j'étais saisi par le récit que nous en faisait notre envoyé spécial qui a suivi tout ce procès, avec un véritable sentiment que devant cette cour à Aix-en-Provence, la justice n'avait pas pu être rendue avec la sérénité nécessaire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, face à une mafia comme celle de la DZ Mafia, face à un narcotrafic aussi puissant, la justice est aujourd'hui la justice, l'autorité judiciaire est aujourd'hui fragile?
Oui, la justice est fragile, que ce soit du côté des magistrats que du côté des avocats. Le narcotrafic est une matière ou est une situation particulièrement difficile. La grève aussi en est une. Je suis pour ma part très attaché à la relation avocat-magistrat, qui doit être une relation constructive.
Qui a été très douloureuse tout au long de ce procès. On sentait qu'il y avait des menaces.
Dans ce procès, qui est douloureuse, je vous le dis aussi, dans la grève à Paris, qui est une grève du zèle, qui est dure aussi pour les magistrats que je salue. Et effectivement, nous sommes très attachés à cette relation. La justice ne pourra pas se faire sans une bonne entente entre les magistrats et les avocats, en particulier dans ces situations difficiles de grève ou de crimes particulièrement violents.
Ou de menaces. Merci beaucoup, Louis de Gosse, d'être venu ce matin défendre donc votre parti pris. Le plaidé coupable sans les garde-fous vous paraît absolument inacceptable. Vous êtes le bâtonnier de Paris et donc en grève aujourd'hui, comme vos collègues un peu partout en France, et vous appelez à un rassemblement devant le Sénat. Ce sera à 13h30, on le suivra bien sûr. Il est 7h20 sur RMC. L'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, dans un an, on votera pour élire un nouveau président de la République. Les sondages, un an avant l'élection, donnent-ils le nom du vainqueur?
Rarement, quasiment jamais en fait. Les favoris des sondages ont toujours perdu un an avant. Personne n'avait vu la victoire de Mitterrand, Chirac, évidemment, ni même Macron.
Vous nous le dites dans un instant. Et puis ensuite, il y aura Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
7h22 et Arthur Chevalier est avec nous dans ce studio. Salut Arthur.
Salut Apolline.
Dans un an, quasiment jour pour jour, ce sera le premier tour de la prochaine élection présidentielle, les 11 ou 18 avril 2027. C'est une date donc qui sera tranchée prochainement par le gouvernement.
Et oui, à un an de l'échéance, les sondages vont bon train et on a déjà des favoris. C'est ce que confirme une enquête d'opinion Ipsos BVA parue hier dans la Tribune dimanche. Les leaders sont Jordan Bardella ou Marine Le Pen pour le RN et Édouard Philippe. Mais alors attention, puisque à un an de l'élection, celui qui est donné vainqueur dans les sondages, c'est très rarement celui qui l'emporte à la fin.
J'imagine que le règne des sondages finit par agacer certains candidats.
Et oui, surtout ceux qui n'en sont pas les favoris, c'est assez logique. Et il y en avait un qui détestait ça, c'était François Mitterrand en 1980. Alors qu'il n'est même pas candidat officiel contre Valéry Giscard d'Estaing, tous les sondages le donnaient, mais alors battu à plate couture, ce qui a évidemment compliqué sa campagne. Et il va finir par s'énerver pendant une conférence de presse en juin 1980. Un an avant l'élection, il va déclarer, je cite, « Tous les 15 jours, on produit le même résultat, de telle sorte que je suis obligé de le confesser. Oui, c'est vrai, ce doit être la 72e fois que je suis battu par monsieur Giscard d'Estaing. »
Et pourtant, à la fin, c'est Mitterrand qui gagne.
Absolument, et il faut quand même attendre la fin février 1980, c'est-à-dire 3 mois seulement avant l'élection, pour qu'un sondage donne Mitterrand vainqueur contre Giscard d'Estaing. ça sera chose faite le 10 mai 1981. Le candidat socialiste remporte la mise avec 51,76% des voix.
Il y a même un cas où le favori des sondages a renoncé à se présenter.
Cas exceptionnel, nous sommes en 1994, un an avant l'élection, et le grand favori, c'était un socialiste très populaire, il s'appelait Jacques Delors. Il était gagnant dans la quasi-totalité des sondages, sauf que l'impensable va se produire 5 mois avant l'élection. Il donne une interview devant 13 millions de téléspectateurs et la coup de tonnerre. Il annonce qu'il ne sera pas candidat. Alors pour se justifier, il évoque son âge, 70 ans, la fatigue, bon un peu la vie quoi. C'est un cas presque unique de modestie en politique. Apolline, son retrait sera fatal au Parti Socialiste hein, puisque son remplaçant, ça sera Lionel Jospin qui perdra contre Jacques Chirac.
Certains auraient parfois mieux fait de ne pas croire au sondage.
Eh oui, à commencer par Alain Juppé à qui on pense. Hein, à partir de 2014, la France s'enflamme pour l'ancien chouchou de Jacques Chirac. Souvenez-vous Apolline, c'était la Juppé mania hein, sur le plateau de France 2. Alors qu'on lui disait que 68% des Français pensaient qu'il ferait un bon président, Juppé qui était si froid, si distant, même un peu hautain, eh bien il s'était ému avec la voix tremblante, les yeux humides. Un an avant l'élection de 2017, il frôle même les 40% d'intention de vote au premier tour. Rien ne pouvait l'arrêter et pourtant, patatras, fin 2016, il perd la primaire de la droite contre François Fillon. Une désillusion qui nous rappelle que les sondages, c'est juste une photographie de l'opinion. À un moment donné, rien de plus.
Merci Arthur Chevalier. J'ajoute, je me souviens que François Hollande, on l'appelait Monsieur 3%.
Exact.
Parce qu'à l'époque, le grand favori, c'était DSK. Comme quoi, effectivement, tout peut arriver. Arthur Chevalier, qui chaque jour nous permet de remonter le temps. Il est 7h25. Arnaud Demange rentre dans ce studio.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Monsieur 100%.
Salut Arnaud, Monsieur 100% est avec nous. À 8h30 tout à l'heure dans le face-à-face, je reçois le géopolitologue Frédéric Ancel.
Eh oui, Ancel, car on va parler Paris-Roubaix à 8h30. Mais non, oh, c'était une blague, c'est Monsieur 100% humour. Évidemment non, on va parler de l'Iran. Youpi, c'est plus léger. Les pourparlers de paix n'ont pas été un grand succès. Donald Trump a même menacé la Chine de droits de douane à 50% si elle aide militairement Téhéran. Alors je résume, c'est la guerre entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, l'Iran, Israël, le Liban, les pays du Golfe et maintenant la Chine. Et vous savez quoi ? Frédéric Ancel avait publié l'année dernière « La guerre mondiale n'aura pas lieu ». Eh ben, il viendra se justifier dans le face-à-face. Apolline, elle va lui mettre une grande claque dans la gueule avec son bouquin. Tu vas me réécrire tout ça. Sachez qu'il prépare en ce moment son prochain livre intitulé « Mais bien sûr, Israël n'attaquera pas le Liban ». Et puis également, la ligne Maginot, c'est du solide, aux éditions Oups. Alors, le vice-président américain J.D. Vance a mis fin au pourparlers d'Islamabad après une seule journée de négociation sans avoir obtenu d'accord. Est-ce qu'il a vraiment échoué dans les négociations ou est-ce qu'il a juste voulu quitter le Pakistan ? Parce que bon, personne veut passer un séjour trop long au Pakistan. C'est l'Inde en moins fun. C'est la tourista et la charia. C'est quand même pas rigolo. J'ai lu que l'Iran voulait faire...
c'est le petit déjeuner.
Il est 7h26.
On va pas aller jusque là. On prie Allah. L'Iran veut faire payer une taxe de 2 millions de dollars aux bateaux traversant le détroit. Quand je pense qu'on gueule nous l'été à cause du péage sur l'autoroute, 2 millions de dollars par passage, il y a intérêt à avoir de la monnaie quand tu arrives à la barrière. Voilà. 1 998 000 euros. Cling. 1 999 999 euros. Cling. Merde, il manque un euro. Chérie, regarde sous le siège. Le pire dans tout ça, c'est que Trump a déclaré à propos des 2 millions par bateau. Ok, bonne idée, on fait 50-50. C'est bien. Allez, enfin, au moins, ils trouvent un terrain d'entente. Ils ont tellement de points communs, c'est Donald Trump et Khamenei. Ils aiment le pétrole, bloquer des détroits. Et toute leur vie a été consacrée à obtenir 72 vierges. Sauf que Trump, il a même pas eu besoin de mourir. Il a juste eu besoin d'offrir des Barbies. C'est vraiment un autre délire. Allez, rendez-vous avec Frédéric Ancel à 8h30.
Arnaud Demange que l'on retrouve évidemment à 8h20. Pour l'heure, il est 7h27 et on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis, ne manquez pas, à 7h40, le ministre de l'Industrie est mon invité sur RMC. Il veut nous pousser à passer à l'électrique. Et vous, comment vous réagissez à cela ? Appelez-nous au 3216.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Entre appel au blocage des lycéens et soutien des enseignants, un lycée de Montpellier sous tension ce matin après une bagarre vendredi entre des élèves et un prof. Prof dont RMC a recueilli le témoignage. Les Américains en passent de filtrer, eux aussi, le trafic sur le détroit d'Ormuz, escalade signée Donald Trump pour mettre la pression sur Téhéran. Et puis les syndicalistes reçus tout à l'heure par le gouvernement, hors de question pour eux d'abandonner le 1er mai férié.
Les professeurs d'un lycée de Montpellier se réunissent en ce moment même.
Comment soutenir leurs collègues? Celui, vous l'avez sûrement vu sur cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, qui s'est battu avec des élèves vendredi. Bérangère Bocquillon, vous avez pu échanger pour RMC avec ce professeur de physique aujourd'hui suspendu.
Oui, car il tient à expliquer qu'il a été agressé avant le début de cette vidéo. Je reprenais des lycéens sur leur comportement dans le couloir quand un élève m'a manqué de respect, dit-il. Il lui demande son identité, le lycéen refuse. Le professeur de physique sort alors son téléphone pour photographier le jeune homme. C'est là que cet élève et un autre attrapent mon téléphone et mon bras, accuse-t-il. La suite, c'est ce qui apparaît sur la vidéo. Le professeur s'approche de nouveau de l'élève qui le repousse d'un geste brusque. L'enseignant va alors giflé le lycéen. J'ai mal réagi, regrette-t-il. Le professeur sera ensuite frappé et mis au sol par plusieurs élèves. Une enquête du rectorat doit débuter ce matin. L'enseignant ajoute qu'il a porté plainte pour vol avec violence en réunion.
Et deux élèves ont été exclus à titre conservatoire. D'autres ont appelé à bloquer l'établissement aujourd'hui pour dénoncer, selon eux, un abus d'autorité.
7h32 sur RMC. Les yeux du monde entier sont rivés sur le détroit d'Ormuz. Donald Trump menace de le bloquer dès 16h, heure française.
L'armée américaine est plus précise. Il s'agira d'arrêter tous les navires en provenance ou à destination des ports iraniens. Ceux uniquement de passage pourront circuler. Une menace en réponse à l'échec des négociations de ce week-end. Le président américain veut pousser Téhéran à réduire son programme nucléaire, Amine Lafchin.
Oui, et pour ça, il veut faire pression sur l'économie du pays. Objectif, empêcher l'Iran de continuer à exporter son pétrole vers l'Asie, notamment un passage stratégique que la marine américaine peut contrôler tout en restant à distance des côtes iraniennes, explique le général Serge Chollet.
Il y a soit la possibilité de se rapprocher d'un navire qui voudrait rentrer ou sortir et lui dire demi-tour, et puis après, on peut très bien envoyer un hélicoptère, y déposer des hommes pour prendre le contrôle du bâtiment.
Les Américains pourraient donc bloquer l'accès au détroit sans s'exposer à des tirs de missiles, mais il existe tout de même un risque.
L'enjeu pour les Américains, c'est quand même de s'assurer que les cours, les marchés soient impactés raisonnablement.
Détail Romain Mielcarec, enseignant-chercheur à l'IPJ Paris-Dauphine.
Depuis le début de la guerre, les Iraniens ont continué d'exporter leur pétrole. S'ils coupent totalement ce flux, ça veut dire que les Chinois, les Pakistanais, les Indiens ne peuvent plus y accéder, donc ils vont chercher du pétrole ailleurs, et ça va impacter tout le monde en faisant grimper massivement les prix.
Une stratégie qui, selon lui, pourrait se retourner contre les États-Unis, car au-delà de l'Iran, les conséquences économiques pourraient être mondiales.
Et je vous donne la réponse de Téhéran qui promet de plonger ses ennemis dans un tourbillon mortel. Et je vous donne aussi la conséquence immédiate. Le cours du pétrole est reparti à la hausse hier, plus 8% au-dessus des 100 dollars le baril.
Et justement, comment faire pour être moins dépendant au pétrole? Le gouvernement veut nous pousser à accélérer l'électrification. Le ministre de l'Industrie est mon invité juste après votre journal, Victor.
Ce n'est pas juste le premier ministre hongrois qui est tombé hier. C'est l'inspirateur des extrêmes droites occidentales, un fidèle allié de la Russie. Viktor Orban a été balayé lors des élections législatives. Son rival, Peter Magyar, remporte les deux tiers des sièges. Il a fait campagne sur son attachement à l'UE et donc dans son discours de victoire hier sur la rupture avec une gestion autoritaire.
Nous y sommes parvenus. Ensemble, nous avons fait tomber le régime Orban. Ensemble, nous avons libéré la Hongrie. Nous avons repris notre patrie. Merci. Merci à vous. Aujourd'hui, les Hongrois ont dit non à la tromperie, aux mensonges, à la désinformation. Ils ont dit non à la trahison.
Une victoire saluée par Emmanuel Macron, par la présidente de la Commission européenne ou encore par Volodymyr Zelensky.
7h34, des syndicats remontés pour défendre le 1er mai férié.
Qu'une proposition de loi prévoit de rendre moins férié en autorisant certains patrons à faire travailler leurs employés ce jour-là. Sénateurs et députés de la Commission mixte paritaire pourraient se réunir dès demain pour l'examiner. Matignon assure qu'il ne passera pas en force. Alors au ministère du Travail aujourd'hui, les syndicats vont exprimer leur colère, Victor Girard.
Des syndicats qui montent au front pour réclamer l'abandon de l'élargissement du travail dans certains commerces le 1er mai.
J'espère que le gouvernement tiendra bon.
Confie Dominique Oracte, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française.
On a fait un sondage en interne où 80% de nos boulangers-pâtissiers vendeurs souhaitent travailler parce qu'ils sont payés double. On ne peut pas toujours céder aux syndicats.
Pour ce professionnel, il faut agir vite car le temps est désormais compté.
Le 1er mai arrive très rapidement. Il faut promulguer la loi. On a aussi le respect de nos salariés, donc on ne va pas les prévenir une ou deux jours avant. Il y a urgence à passer ce texte. C'est très, très important.
De leur côté, les syndicats comptent bien réaffirmer ce soir leur opposition, tant sur le fond que sur la forme, à ce projet de loi auprès du ministère du Travail. Patricia Drevon, du syndicat Force Ouvrière.
C'est un jour qui a été acquis de haute lutte. Il y a vraiment des problématiques. Il faut revenir à la branche. C'est aux organisations syndicales et patronales, mais en aucun cas une loi qui fixe les contours.
Alors que le projet de loi repose sur le volontariat, les syndicats redoutent aussi que les salariés soient dans les faits contraints de travailler par leurs employeurs.
Victor Girard pour RMC. Deuxième dégradation en moins d'une semaine. Des tags anti-police et pro-Gaza ont été découverts hier au jardin mémoriel des attentats du 13 novembre à Paris. Une enquête est ouverte. Du sport et en cyclisme, Wout Van Aert au paradis après l'enfer du Nord, le surnom du Paris-Roubaix, cette course mythique que le Belge a enfin remportée hier alors qu'il avait multiplié les galères sur cette classique ces dernières années. Tout ça devant l'immense Slovène Tadej Pogacar. Écoutez son émotion.
J'ai travaillé toutes les années, beaucoup de sacrifices. Paris-Roubaix, c'est pour moi peut-être la plus belle course de l'année. C'était difficile. Je crois mon expérience après beaucoup de participation m'a aidé. J'ai vécu de crevaison. J'ai toujours été calme et essayé de faire mon plan. J'étais avant avec Tadej, c'était une bonne bataille entre deux.
Et un mot de foot et de Ligue 1, victoire 2-0 de Lyon contre Lorient hier soir. Lyon qui est cinquième, toujours dans la course pour la troisième place, pour l'instant occupée par Lille, vainqueur à Toulouse 4-0.
Et puis le Quintet, c'est à Auteuil.
Départ 13h55, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Sa favorite, c'est le 5 Tigresse du Berlay, son outsider le 8, Trouble in Paradise le 5 et le 8.
C'était le journal de Victor Pourchet, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'énergie n'est pas seulement un marché. C'est un enjeu de sécurité nationale, un rapport de force. Quand nous importons du pétrole ou du gaz, nous importons en même temps les crises des autres.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu, que vous aurez reconnu, présentait en fin de semaine dernière son plan pour l'électrification de la France. Bonjour Sébastien Martin, vous êtes le ministre délégué à l'industrie. Comment être moins dépendant du pétrole? L'économie française peut-elle tenir le coup? Les cours du pétrole repartent à la hausse encore ce matin. Ils sont repassés autour des 100 dollars le baril. On apprend qu'une usine de plastique dans l'Ain va fermer une semaine faute de livraison. Est-ce qu'il faut craindre la contagion et comment réagir? Vos réponses dans un instant, monsieur le ministre, et vos réactions au 32-16. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h41 sur RMC et sur RMC Story. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'électricité. C'est au fond ce que vous dites, Sébastien Martin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre délégué de l'Industrie, le Premier ministre qui a donc annoncé un grand plan d'électrification, être moins dépendant du pétrole, des voitures électriques en prêt pour les professionnels, des aides pour remplacer les chaudières à gaz des particuliers ou des fours électriques pour les boulangers. Est-ce que, franchement, ça peut répondre à l'urgence du moment ?
Bah écoutez, l'urgence du moment, effectivement, c'est de dire aux Français qu'on a un cap. Parce que face à une situation qui est aussi fluctuante en permanence, je pense qu'il est nécessaire de montrer aux Français qu'on apporte des solutions qui sont des solutions de long terme. Or, nous maîtrisons l'électricité en France, et ça c'est un point très fort, et en plus à des prix bien plus avantageux que chez nos voisins. Et d'autre part, nous avons des industries qui sont capables d'apporter des solutions en matière de chauffage avec les pompes à chaleur, et en matière d'automobile pour les mobilités.
Sauf que ça va mettre un peu de temps. À gauche, on dénonce un plan, je cite, déconnecté, qui serait loin de l'urgence de la situation. Ceux qui nous écoutent,
au contraire, on propose
ils ont du
connecter.
Mal là, aujourd'hui.
On propose de connecter au réseau électrique. Quand on dit c'est des réponses à très long terme, elles sont à long terme, mais avec des réponses immédiates. Si vous avez la possibilité d'aller acheter un véhicule électrique, si vous avez la possibilité d'aller acheter une pompe à chaleur, et en plus des choses qui sont made in France. Moi, je suis ministre de l'Industrie. Donc, ce qui me plaît dans ce plan d'électrification, c'est que c'est un coup de boost aussi à nos industriels. On sait faire des véhicules électriques en France, contrairement à ce que j'entends à longueur de journée sur tous les plateaux où on nous dit que ce sont les Chinois qui vont en profiter. Combien de véhicules électriques chinois sont parmi les 10 premiers véhicules électriques vendus en France ? Zéro. En France, les 10 premiers véhicules électriques vendus en France sont made in Europe. Zéro sont chinois. Donc j'en ai un peu marre d'entendre n'importe quoi. Ça me donne l'occasion de dire ici que en achetant un véhicule électrique, c'est aussi l'industrie européenne et française qu'on soutient.
Vous voulez investir mais sans dépenser plus. Comment faire ?
Alors, l'idée, elle est assez simple. Le Premier ministre l'a annoncé. Ce seront des redéploiements de crédits. Ce seront certaines fiches de C2E aujourd'hui qui continuent les certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire des subventions qui existent pour vous électrifier ou vous décarboner. Or, on a certaines fiches qui continuent à aller vers des modes de production qui utilisent encore une part d'énergie fossile, par exemple. On a des fiches qui sont sous-utilisées. Donc, on va maximiser l'utilisation de ces certificats d'économie d'énergie et tout ça sera fait à moyen constant, ça a été indiqué.
Alors, quelles conséquences pour les entreprises ? Dans l'Ain, l'entreprise UTZ France, qui est spécialisée dans les emballages plastiques, a annoncé qu'elle va fermer aujourd'hui pour au moins une semaine, faute de livraison, parce que, normalement, elle a besoin justement de ces livraisons de pétrole qui viennent du Golfe, mais aussi de tout autre produit. Il y a 90 salariés qui vont se retrouver au chômage partiel. Est-ce que vous redoutez une forme de contagion et de chômage partiel ponctuel aujourd'hui dû tout simplement aux matières premières qui n'arrivent plus du Golfe ?
Non. Alors aujourd'hui, on suit les choses au jour le jour. Tous les jours, on réunit l'ensemble des filières économiques à Bercy pour faire un point. Ça ne vous a pas échappé que pour faire du plastique à la base, il faut du pétrole. Que ce pétrole, une partie vient du Golfe, qu'ensuite il est exporté notamment en Chine pour faire la matière première qui permet de faire du plastique. Il y a différents types de plastique. Il y a certains plastiques qui peuvent servir pour faire des emballages, par exemple, aujourd'hui, où on a quelques soucis d'approvisionnement. Mais globalement, nos filières industrielles, elles tiennent face à ce choc, et on suit ça de très très près. Voilà, vous avez cette entreprise qui est en rupture d'approvisionnement. Beaucoup avaient un peu anticipé, moi je connais des entreprises de la plasturgie qui avaient anticipé leur stock, et donc globalement ça tient.
Vous pensez que ça va tenir ? Vous nous dites ce matin, ça va tenir.
Chère madame, si demain le Golfe est à nouveau complètement bloqué, je sais pas quoi vous dire par rapport à une situation qui est gérée de manière un peu, comment dirais-je, éruptive par le président des États-Unis. Mais globalement, notre industrie tient.
Cyril, vous vouliez réagir, vous nous appelez du Rhône, vous êtes à Saint-Romain-de-Beaupé. Passez à l'électrique, ce grand plan d'électrification, comment vous réagissez ? Vous faites quoi dans la vie, Cyril ?
Bonjour, moi je suis économiste de la construction.
Ok.
Nous avons des chantiers un petit peu sur toute la France et nous roulons. Moi je fais plus de 40 000, entre 40 et 50 000 km par an.
Ouais.
Et pour le moment, je suis pas capable de passer à l'électrique parce que je peux pas recharger mon véhicule chez les architectes sur lesquels je vais, sur les lieux de réunion, sur mon maître d'hôtel. Arriver en disant bonjour monsieur, je vous pique votre prix, je vous merci de me faire le plein, quoi, ça marche pas.
Mais précisément cette question-là, monsieur le ministre, est-ce qu'il faut changer nos habitudes ? Est-ce qu'il faut se dire, désormais, la logique c'est que vous arrivez chez quelqu'un, au lieu de lui demander juste un verre d'eau, vous lui demandez sa prise ?
c'est une des solutions, vous avez raison, mais le mieux c'est de déployer un maximum de bornes de recharge.
Mais j'imagine Cyril que vous allez nous dire que ça prend du temps, que c'est pas possible dès demain, quoi. Qu'entre-temps, vous êtes obligé de payer le plein.
C'est pas possible. Et au final, si j'achète l'électricité plein bûche et de partout, ça vaut pas le coup, je roule électrique. Le but du jeu, si on roule électrique, c'est de payer l'électricité le moins cher possible.
Du coup, moi, le
plus gros problème que j'ai, si je mets des panneaux solaires sur mon toit, bon, pour l'instant, ils ont été refusés par les bâtiments de France. Mais ça, c'est autre chose. Mais actuellement, quand je suis chez moi, quand les panneaux solaires produiraient, je suis au bureau. Donc, moi, j'ai besoin de recharger la nuit.
Vous avez raison, le mieux c'est de recharger la nuit quand on est chez soi. Parce que le tarif de l'électricité chez soi, c'est bien évidemment le moins cher, plutôt que quand on va sur une borne de recharge, notamment sur l'autoroute. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme avec votre voiture. Quand vous faites le plein d'essence sur l'autoroute, ça coûte plus cher que quand vous faites le plein d'essence chez votre pompiste de proximité ou à la grande surface de proximité. Le mieux, c'est de recharger chez soi. Parce que quand on recharge chez soi, la différence entre 100 km à l'électrique et 100 km à l'essence, c'est entre 3 et 5 euros pour l'électrique et c'est 15 euros pour l'essence et le diesel. Donc on a un rapport qui va de fois 3 fois 5. Donc c'est quand même extrêmement intéressant de passer à l'électrique et de pouvoir charger chez soi. Ensuite, monsieur a relevé un point important. La France est un des pays européens qui a déployé le plus grand nombre de bornes de recharge. Regardez sur les autoroutes, il y en a aujourd'hui absolument partout.
Oui, mais ce qui vous répond,
les
c'est que
communes
c'est quand même beaucoup
et les intercommunalités déploient
quand on le recharge à la station, à la borne de la station, que chez soi.
Oui, ça coûte un peu plus cher, forcément, parce qu'à la station, il faut bien que les gens gagnent leur vie. Donc effectivement, ils font une petite marge quand on va à la station pour recharger. Mais ce qui est intéressant, et on libère les capacités là-dessus, c'est de recharger au maximum chez soi. Quand vous achetez un véhicule électrique, on vous propose des offres pour installer une borne à domicile. On a libéré les systèmes pour pouvoir avoir des bornes dans les parkings de copropriété, parce que c'était très compliqué avant. On a simplifié la réglementation pour ça. Voilà, c'est des changements d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que
simplifier
je vous dise?
Simplifier la réglementation. J'ai encore deux questions à vous poser, monsieur le ministre. Une sur le 1er mai. Il y a cette réunion tout à l'heure au ministère du Travail. Les syndicats qui seront reçus, ils dénoncent une atteinte au droit du travail. Est-ce que le gouvernement va vraiment assumer de vouloir autoriser les gens à travailler le 1er mai?
Mais il y a un certain nombre de professions qui, depuis longtemps, travaillent le 1er mai et ont envie qu'on sécurise leur cadre. J'écoutais sur votre antenne ce matin, Thibault Bazin, qui est le rapporteur du texte ce matin, a dit, voilà, notamment toutes les professions qui font 100% d'alimentaire, les boulangers, par exemple, ont besoin d'être sécurisés. Il ne s'agit pas d'ouvrir tous les supermarchés. Il y a des professions comme les fleuristes qui, le 1er mai, ont besoin d'être sécurisés. Il y a une réunion cet après-midi chez Jean-Pierre Farandou, qui est quand même quelqu'un en matière de dialogue social qui s'y connaît, je suis sûr qu'on va arriver à trouver le bon atterrissage.
Et une dernière question, vous l'avez peut-être entendu, dans la loi de programmation militaire, Sébastien Lecornu a annoncé un nouveau régime d'exception, une alerte de sécurité nationale. Et il justifie cela en disant, il ne serait pas acceptable que face à une menace imminente, la nation soit entravée par ses propres lenteurs. Il parle notamment du droit de l'urbanisme, du droit de l'environnement qui bloque évidemment la mise en place de nouvelles usines, de nouveaux hangars. Il dit, en temps de guerre, c'est impossible. Mais pourquoi en temps de paix, ce serait acceptable?
Il faut qu'en temps de paix aussi, on ait des mesures de simplification. Vous avez parlé des questions foncières. Moi, par exemple, j'ai demandé au préfet d'identifier beaucoup plus de fonciers industriels qui sont prêts à être industrialisés, ce qu'on appelle des sites industriels.
Mais est-ce que ça n'est pas reconnaître en creux qu'au fond, la France s'est entravée elle-même par tout un tas type de normes et de blocages et de procédures ?
Il est vrai qu'aujourd'hui, on protège plus l'environnement qu'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est vrai. Est-ce que les Français ont envie qu'on revienne en arrière ? Sur la protection de l'environnement, je suis pas sûr. Par contre, il faut que les procédures qui permettent de protéger l'environnement soient plus rapides, et c'est ça qu'il faut trouver comme équilibre.
Merci beaucoup Sébastien Martin d'avoir répondu à mes questions ce matin, ministre délégué de l'Industrie. Et merci à Cyril pour son témoignage. Il est 7h50 et Charles Consigny est rentré dans ce studio. Bonjour Charles.
Bonjour.
Parce que Charles, vous êtes la voix de droite, on est lundi. Dans un an, ce sera déjà le premier tour de l'élection présidentielle, un an quasiment jour pour jour. Jordan Bardella, Marine Le Pen, Édouard Philippe semblent les favoris, mais pour vous, rien n'est joué?
Oui, car je m'appuie sur un sondage récent très exhaustif qui a été fait pour le CVPOF, Le Monde et la Fondation Jean Jaurès, et qui montre que les Français ont un violent désir de changement.
Vous nous le direz dans un instant, il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52. Le bonus, Mathieu Vianney, après sa cabane sur Mer à la musique.
Exactement. Il chantait Je m'en vais il y a quelques années. Vous aviez peut-être raté son départ de la scène, de la vie publique. Le chanteur s'était offert une petite parenthèse en forêt pour construire une cabane dans les bois. Arrêter de produire, commencer à construire, disait-il. Une escapade de 9 mois pendant lesquelles il n'a pas tout coupé. Sur YouTube, on a pu le voir en vidéo dans une espèce d'Into the Wild franchouillard. Coupé, poncé, soulever des rondins, griller de la viande sous la pluie, la neige, le vent. Vianney, le charpentier. C'est ainsi qu'il s'est surnommé dans ses vidéos où l'on n'entend que des bruits de nature. Et maintenant, Vianney le charpentier redevient chanteur. Cette cabane n'est qu'un refuge, n'est pas qu'un refuge, c'est aussi un studio à l'intérieur. Un lit, un poêle et un piano. Il veut désormais s'enfermer pendant un mois seul avec ses instruments pour composer de nouvelles chansons.
Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h53, c'est lundi et c'est la voix de droite comme chaque lundi. Bonjour Charles.
Bonjour.
Charles Consigny. Dans un an jour pour jour, ça devrait être le premier tour de l'élection présidentielle. Le Monde a publié hier soir une grande enquête d'opinion avec Ipsos et BVA. Jordan Bardella, Marine Le Pen, Édouard Philippe suscitent le plus d'approbation. Mais pour vous, il faut une alternance en 2027.
Alors, pour moi, il faut une alternance. Oui, pour moi, mais pour les Français aussi. C'est-à-dire que si j'en crois cette étude que j'ai citée il y a quelques secondes, vous avez une très grande majorité de Français qui réclament un grand changement. Vous avez la moitié des Français qui estiment qu'il faut réformer en profondeur la société française. Vous en avez même un quart qui estime qu'il faut la transformer radicalement, ce qui est un item, comme on dit, en progression de 8 points par rapport à 2023. Donc c'est un sentiment qui augmente beaucoup dans la société française.
Mais un changement, ce serait avec qui, avec quoi, alors, avec quel genre de programme? Qu'est-ce que c'est vraiment un changement?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que les priorités des Français, je trouve, ne changent pas beaucoup, elles. La première priorité, c'est le système de santé. Les Français veulent conserver et améliorer, si possible, notre système de santé. La deuxième priorité, c'est le pouvoir d'achat, rien de nouveau. Peut-être un peu nouveau, en troisième position, l'école. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une prise de conscience de l'écroulement de l'école républicaine et il y a une volonté de remettre l'école sur pied et viennent ensuite, dans l'ordre, la sécurité, la dette, l'attractivité de l'économie, l'immigration et la place de la France dans le monde. Donc c'est des sujets, voilà. Je pense que la place de la France dans le monde, par exemple, je suis pas sûr qu'il y a 20-30 ans, c'était vraiment dans les priorités des Français.
Une fois qu'on a posé ce décor-là, ça donne quoi dans un an ?
On verra. Moi, ce que je constate, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a ce violent désir de changement ? À mon avis, c'est que la classe politique a montré pendant le vote du budget le cornu une image, un visage qui était pas beau à voir. Parce qu'on a vu que, en gros, ça tripatouillait joyeusement dans les partis pour essayer de survivre, au fond, et pas tant pour l'intérêt du pays. Pour l'instant, la figure d'alternance, c'est Jordan Ier, le prince Jordan, comme il faut désormais l'appeler.
Puisqu'il partage la vie d'une princesse, c'est ce qu'on veut dire.
On verra s'il est pas un peu court pour le poste, mais moi, je trouve ça intéressant. Et je pense que c'est aussi un rejet de ce qu'on appelle maintenant le bloc central, que l'on appelait le en même temps, qu'on appelait le dépassement, qu'on appelle comme on veut, mais qui est un système qui consiste à amalgamer des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc je pense que, loin de ce que voudraient prévoir ceux qui veulent verrouiller cette élection, je pense que tous les paris sont ouverts.
Alors on a quand même l'impression que le nombre de candidatures, notamment à droite, est absolument mais pléthore. Il y a chaque jour un nouveau candidat. Il y a évidemment Retailleau, Lisnard, Philippe, Bertrand, Dupont-Aignan, les uns et les autres, et j'en oublie sans doute. Est-ce que jusqu'où ça peut aller ?
Le truc, c'est que quand vous prenez ces noms-là, Philippe, c'est quand même le continuateur du bloc central aux dernières nouvelles. Donc en termes d'alternance, on a quand même vu mieux. Xavier Bertrand est sur une ligne intéressante, mais qui est pas une ligne de profond changement. C'est quand même une droite assez conservatrice. Peut-être que Retailleau est le plus radical dans la liste, Lisnard aussi l'est. Bon, tout ça, c'est un casting, c'est le casting habituel. Moi, je crains que ces personnalités aient comme défaut d'être dans le paysage depuis très longtemps. Et je pense que dans le dégagisme, il peut valoir aussi pour l'opposition. Si vous êtes dans le paysage depuis trop longtemps et assimilable aux sortants, je pense que les Français ne veulent pas de vous. Moi, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des élites qui sont en fait assez conservatrices et un peuple qui, lui, a envie d'un coup de balai radical. Donc je pense que, encore une fois, tout est possible en 27.
Merci beaucoup Charles Consigny. La voix de droite, demain ce sera la voix de gauche évidemment, puisque ce sera mardi et ce sera donc Cécile Duflot. Il est 7h57, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 8h à la une. Donald Trump qui promet d'empêcher tout navire d'entrer ou de quitter les ports iraniens, un moyen, dit-il, d'asphyxier Téhéran. Juste après le journal, il y aura l'économie avec vous Emmanuel Lechypre. Salut Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel, on va poursuivre justement sur les conséquences économiques de ces grandes manœuvres autour du détroit d'Ormuz.
Est-ce que ça va nous profiter ou est-ce que ça va nous coûter ?
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi la météo. Géraldine nous dit qu'il fait gris et qu'il pleut. Allez, à tout de suite, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.